Bonjour à tous pour cette première interview de la semaine sur le droit, la citoyenneté et la justice. Nous avons un invité de marque aujourd'hui qui est venu présenter son métier et son parcours aux élèves de 4e 4. Et donc nous avons deux représentants de cette classe, Kaïssa et Yasmine, qui sont là pour faire son interview. Bonjour à tous.
Bonjour.
Bonjour.
On va commencer. Je voudrais d'abord que vous vous présentiez, s'il vous plaît.
Oui, alors moi je m'appelle Emmanuel Pelon. Et j'exerce le métier de psychiatre et j'ai exercé pendant quelques années au centre pénitentiaire de la santé à Paris et à la consultation extracarcérale de l'hôpital Sainte-Anne.
D'accord, merci.
Est-ce que vous pouvez nous décrire votre parcours scolaire ?
Alors, j'ai fait un bac qu'on appelait scientifique à l'époque, ensuite de quoi j'ai fait des études de médecine à Lyon pendant 6 ans. Ensuite, j'ai passé un examen classant national et j'ai choisi la psychiatrie à Paris. Et j'ai fait une spécialisation pendant 4 ans. Et ensuite, j'ai eu mon diplôme en 2017.
Merci. Qu'est-ce que vous aimez le plus dans ce métier ?
Alors, ce que j'aime plus que tout au monde, c'est la relation avec le patient. C'est l'alliance thérapeutique, comme on l'appelle. C'est cette relation de confiance entre le patient et le thérapeute qui fait qu'on va pouvoir le soigner.
D'accord. J'ai une autre question. Est-ce que vous avez des craintes dès que vous parlez avec les patients en prison ou pas ?
Alors non, j'ai jamais eu peur lors des journées là-bas, ni avec les détenus, ni avec les surveillants. C'est plutôt un endroit où on se sent très en sécurité. Comme je disais à la classe, les gens qui sont en prison n'ont pas vraiment intérêt à être agressifs ou violents. Et puis en plus, la plupart du temps, ils savent qu'on est là pour les soigner. Et donc, au contraire, ils nous font confiance.
Est-ce que l'état mental de vos patients vous ont déjà impacté ?
Alors oui, bien sûr, j'ai entendu des histoires terribles. Et parfois, le soir, on y repense et on se dit que quand même, il y a vraiment des grands malheurs dans cette vie. Mais on essaie de gérer ça déjà avec les collègues en discutant. On essaye aussi d'en discuter avec le patient en mettant une espèce de distance, mais en même temps de proximité. C'est ça qu'on appelle l'empathie, c'est la capacité d'être en résonance avec ce que l'autre vit sans pour autant en souffrir soi-même.
À quel âge vous avez commencé ce métier ?
Alors, ça dépend si on compte l'internat, qui est la spécialisation, auquel cas j'ai commencé à 26 ans. Et si on compte le moment où je suis devenu docteur, c'était à 30 ans.
Est-ce qu'en prison, vous voyez des injustices ?
Oui, beaucoup. Beaucoup, beaucoup. C'est un milieu qui est très injuste. C'est un milieu où il y a beaucoup d'inégalités. Déjà, les inégalités, elles se reflètent par qui on trouve en prison. Et on trouve beaucoup de gens qui sont soit étrangers, soit racisés, c'est-à-dire noirs ou arabes. Et ça ne reflète pas du tout la société dans son ensemble. Et c'est vrai que ça pose des questions sur comment est organisée la société.
Travaillez-vous encore dans ce métier ? Ou pas ?
Oui, alors je fais toujours ce métier, mais je ne le fais plus en prison. Je le fais en cabinet libéral à Pantin.
Êtes-vous indépendant ?
Dans quel sens ?
Est-ce que vous dépendez de la prison, par exemple ?
Alors non, quand on est médecin en prison, on ne dépend pas de l'administration pénitentiaire. On dépend de l'hôpital public. On est un service qui est effectivement indépendant de la prison.
Est-ce que vous avez déjà eu des problèmes avec un détenu ?
J'ai jamais eu de problème avec un détenu. J'ai déjà eu une fois un problème avec un surveillant où je suis rentré en conflit, je me suis mis très en colère. Et finalement, ça s'est bien fini.
Dans quel cas vous avez le droit de plus garder le secret médical ?
Alors, il y a un seul cas. On doit garder le secret pour tout ce que nous raconte les patients, sauf s'il y a un danger imminent pour autrui. Par exemple, si la personne dit je vais tuer quelqu'un et j'ai une arme pour le faire. Alors là, on doit dénoncer. Et sinon, pour tout le reste, on ne doit pas dire. Même si c'est des crimes, si, à partir du moment où c'est dans le passé, il n'y a pas de danger, donc il n'y a pas de, de raison de le dire.
Qu'est-ce qui vous marque le plus dans ce métier ?
Oh là là, il y a plein de choses qui me marquent. Moi, ce qui me marque, c'est, je dirais, c'est à la fois le nombre de malheurs que les gens sont capables de traverser et aussi l'imagination que les gens mettent pour aller mieux.
Combien y a-t-il de prisonniers en France ?
Alors, il y en a environ 71 000, selon mes dernières informations, ce qui représente une personne pour 1 000. Et il faut savoir aussi que c'est une population qui augmente chaque année de presque 1 000 par an.
Les détenus qui ne veulent pas parler avec vous, mais qui vous confient quelque chose, est-ce que c'est encore dans le droit de garder ça pour lui-même ou on doit en parler ?
Est-ce que tu peux préciser ta question, pardon ?
Par exemple, si il y a un danger, mais pour lui, dans le sens qu'il veut... Il veut se suicider ou quelque chose ou...
Alors, c'est, quelque ça, chose c'est une ça. Bonne question. Ça arrive très souvent en prison que les gens ont envie de se suicider ou de se faire du mal. Et dans ce cas-là, il y a plusieurs solutions. Enfin, il n'y a pas vraiment de solution en réalité, mais il y a plusieurs manières de faire. Bah, y a déjà essayé de rassurer le patient, de le tranquilliser, de voir ce qui ne va pas, de comprendre ses besoins. On peut, si vraiment il y a un risque important, on peut l'hospitaliser s'il le souhaite. C'est à sa demande. Et aussi, on essaie de comprendre la part de négociation parce que souvent, les problèmes de suicide peuvent être liés aussi à des problèmes qui sont avec l'administration pénitentiaire. Et comme je disais, le suicide, ça peut être un moyen de pression. Et c'est parce que les patients, ils n'ont pas beaucoup de possibilités d'influer sur leur environnement. Et donc, parfois, le suicide, c'est la seule manière qu'ils ont pour négocier avec l'administration pénitentiaire qui a peur qu'ils se suicident. Et donc, du coup, il faut essayer de comprendre un peu ces enjeux-là et d'aider le patient à traverser ce moment-là, à la fois essayer d'obtenir ce qu'il veut, mais en même temps sans se mettre trop en danger.
Est-ce que ça vous arrive d'aussi aider la famille du patient qui se sent mal par rapport à l'incarcération de celui-ci ?
Oui. Alors, c'est quelque chose qu'on a essayé de développer à la consultation extracarcérale. C'est aussi d'aider les familles. Il faut savoir que les prisonniers, ils ont souvent des familles derrière eux et qui ont pas choisi cette situation-là et qui sont, d'une certaine manière, un peu punis aussi parce qu'ils doivent endurer tout un tas de choses. Et la plupart du temps, ce sont des femmes, ce sont des mères, des sœurs, des filles, des copines qui soutiennent les prisonniers, puisque la plupart des prisonniers sont des hommes, 95%. Et donc, je pense que ces femmes et ces familles en général, il faut les soutenir le mieux qu'on peut.
Et pour finir, quel est l'article que vous préférez dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ?
Alors, c'est un peu particulier parce que c'est un article qui a été écrit en 1793 et qui a ensuite été supprimé en 1795 par le directoire. Et c'est l'article que voilà, c'était l'article 35 de la Déclaration des droits de l'homme de 1793. Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple et pour chaque portion du peuple le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. Et peut-être vous pourrez réfléchir pourquoi il a été supprimé.
Merci.
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 On a fini pour cette interview. On vous souhaite une bonne journée. Et
abonnez-vous.
Au revoir.